Confidence Sportive, agence de communication marketing spécialisée dans le sport, et Citron Productions, votre prestataire audiovisuel, vous présente Rendez-vous Grenat. Rendez-vous Grenat, Vianetrit Skeiser, Thomas Mertz.
Salut à tous, soyez les bienvenus dans Rendez-vous Grenat. Au sommaire de votre podcast aujourd'hui, le FC Metz s'est incliné 2-1 à Reims hier après-midi. Retour sur la 15e défaite des Grenats cette saison. Dans un instant, après cette défaite, le FC Metz jouera 6 équipes du haut de tableau lors des 8 dernières rencontres. Le FC Metz a-t-il d'ores et déjà un pied en Ligue 2? Ce sera le débat du jour. Juste après, les chroniqueurs nous livreront leur top et flop de la semaine avant de nous pencher sur la réception de Monaco à Saint-Symphorien. Ce sera dans 15 jours. Enfin, nous finirons avec notre petit quiz. Et pour m'accompagner aujourd'hui, on retrouve Thomas Mertz. Salut Thomas.
Salut Vianney, salut à tous.
Let's go Metz est dans la place avec Enzo Peretta. Salut Enzo.
Salut les amis.
Il est aussi bon derrière un micro que pour la vente de votre bien immobilier. Sébastien Renoir est avec nous. Salut Seb.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors Sébastien, c'est vrai que ce stade de Reims, c'était prenable, mais le FC Metz s'est incliné ce dimanche après-midi.
Oui, le FC Metz s'est incliné, comme malheureusement beaucoup de dimanches cette saison. Était prenable pour l'adversaire. On peut faire ce même constat aussi pour des week-ends précédents où on n'a pas toujours le sentiment que les équipes en face nous surclassent. Mais malgré tout, je pense que la victoire de Reims est méritée. Je pense que le collectif de Reims est plus abouti et meilleur que le nôtre. Et je pense que la défaite est logique. Voilà, on échangera un tout petit peu sur notamment la gestion du match et des circonstances, encore une fois, de notre entraîneur Laszlo Bologni, qui pour moi a encore manqué d'idées et de force de proposition sur un match comme celui-ci, où on voit encore une fois des changements quand ça ne sert plus à rien en faire à la 87e minute, alors que je pense qu'il y avait quelques joueurs qui étaient en dedans et en grande difficulté depuis une bonne trentaine de minutes, et que des changements auraient été opportuns malgré le fait que le score était nul et de 1 partout. Donc encore une fois, il y a encore des choses à dire, des frustrations, ce qui est pas toujours évident. On préférait de temps en temps prendre 3-0, n'avoir rien à dire, puisque voilà, il y aurait une classe d'écart, mais il y avait sûrement mieux à faire, c'est dommage.
Alors justement, ouais, on va revenir justement sur la gestion de ce match par l'entraîneur du FC Metz dans un instant. Enzo, toi tu as fait le déplacement avec les supporters, tu étais dans le parcage messin au stade Auguste Delaune. Comment tu as vécu cette rencontre?
Malgré des fêtes, j'ai quand même bien vécu cette rencontre. Je trouvais que Metz a fait un bon match quand même malgré tout. Malgré les quelques erreurs défensives qui nous ont coûté quand même 2 buts, mais je trouve que Metz a fait un bon match. Si on avait fait ce type de prestation depuis le début de la saison, je pense que les Grenats n'en seraient pas là aujourd'hui. Mais je pense encore que le coaching du Bologna est encore à remettre en question. Je pense qu'on ne peut pas attendre la 85e minute pour faire les premiers changements, même si Maxime Collin s'est blessé en début et remplacé par Sané. Mais le coaching est encore trop tardif, et ça va être encore compliqué pour se maintenir.
Ouais, Thomas, dans le jeu, pourtant, le FC Metz était peut-être plus à l'aise que face à Clermont la semaine passée.
On sait qu'à l'extérieur, ils arrivent de temps en temps à piquer l'adversaire, et puis ils l'ont montré avec le but d'attaque qui est quand même une belle action sur un centre de Vandenkerkhoff. Après, c'est surtout symptomatique, c'est de la saison, c'est les buts qui se prennent. Voilà, le premier but, les défenseurs, ça fait une partie de billard, ça rebondit un peu partout. Et puis ensuite, il y a un but qui est refusé pour Reims, puis le deuxième qui est encaissé. Donc bon, c'est compliqué à ce moment-là de prendre des points, et surtout face, comme tu l'as dit Seb, une équipe de Reims qui est quand même une équipe qui produit du jeu et qui a l'habitude des saisons en Ligue 1, et qui forcément derrière l'équipe n'a pas pris ce point qui aurait fait du bien malgré l'apport des supporters qui avaient fait le déplacement en nombre. Donc c'est dommage par rapport au classement.
Seb, j'ai envie qu'on revienne sur ces 2 buts encaissés par le FC Metz, 2 buts finalement qui sont presque similaires, et où le FC Metz a fait preuve de naïveté quand même.
Oui, preuve de naïveté. Bah, de toute façon, on sait qu'on a une des particularités de notre équipe, c'est sa jeunesse, évidemment. Quand on n'a pas Traoré, puisque Traoré était sur le banc, on a quand même un groupe qui, au niveau de l'expérience, est quand même c'est réduit quoi, pour jouer en Ligue 1. Donc les buts, tu parles de deux buts, mais il y en a même trois, parce que celui qui est refusé, c'est vraiment discutable pour le coup. Donc si au bout de 10 minutes ou 12 minutes de jeu, vous aviez déjà eu 2-0, je pense que ça n'aurait pas été le même match non plus. On a eu la chance de bonifier une de nos transitions, puisque c'est ce qu'on sait faire. Donc ça, sur ça, c'est vrai qu'on a quelques qualités. Mais quand j'entends mieux dans le jeu, bon, voilà, c'est encore une fois, c'est ce que je répète souvent. Ça dépend où est-ce qu'on place le curseur de l'exigence. C'est ce qui compte. Moi aujourd'hui, je suis bien plus exigeant que ça. Pour moi, ça a été un match à l'image de la saison du FC Metz, qui est très très moyen parce que l'utilisation du ballon malgré tout est compliquée, parce qu'on n'a pas de possession de balle. On a beaucoup de difficultés là-dessus. On fait des erreurs défensives parce que à force de subir une pression d'un adversaire aussi, à un moment donné, on n'est pas à l'abri de l'erreur. Donc voilà. Il est toujours plus facile de défendre à 50 mètres de ses buts qu'à 20 ou 25, puisque les erreurs sont payées cash. Et voilà, c'est cette frustration, encore une fois, où depuis 13 matchs maintenant, 2 victoires, 1 nul pour 10 défaites, puisque c'est la série en cours, si on calcule comme ça. La proposition du FC Metz, pour moi, n'est pas digne d'une équipe qui veut se maintenir en Ligue 1, n'est pas digne d'une énergie suffisante, en tout cas pour pouvoir s'y maintenir. Cette division-là demande plus que ça, plus que ce qui est proposé. Et en fer de lance, du coup, Laszlo Bologna, qui est à la base de quand même ce qui est demandé aux joueurs et qui pour moi est beaucoup trop limité et limitant. On n'a pas d'épanouissement dans son équipe, dans cette équipe là on n'a pas de jeu. Des semaines maintenant, on subit une possession de balle par Clermont quand même. C'est vrai, ça à domicile, ça montre vraiment quand même si on a gagné 1-0 encore une fois, mais ce match là on l'a gagné, on aurait très bien pu faire autre chose aussi. On peut en parler parce que Clermont méritait mieux chez nous que de perdre 1-0. Donc voilà, moi je j'ai pas trop trop d'espoir sur la finalité de cette saison-là, malheureusement, et j'espère pour une énième fois que les choses et les bons choix seront réalisés. Et encore une fois, Laszlo Bologna au poste aujourd'hui, il n'y a qu'un club comme le FC Metz et qu'un président comme Bernard Serin qui peut permettre quelque chose comme ça. On voit Nantes a réagi, on voit d'autres clubs qui ont réagi, et nous on laisse faire. Le bilan est de 7 points sur 13 matchs, c'est quand même à un moment donné 39 points. 7 points sur 39, vous êtes encore au poste en tant qu'entraîneur, c'est pas normal. Il faut qu'il y ait des choses qui se passent dans cette équipe et dans ce club-là.
Merci Sébastien, on va écouter tout de suite la réaction de Georges Mikotadze.
On a manqué d'efficacité aujourd'hui, voilà, on a fait du bon jeu. On est tombé contre une belle équipe de Reims quand même, qui nous a posé quelques problèmes. Mais voilà, aujourd'hui c'est ce manque de réussite qu'on a eu un peu offensivement. Oui, c'est la fin d'une série, mais on retient le positif aussi, on a fait un bon match. Voilà, maintenant on a perdu et il faut revenir après la trêve et prendre des points.
Alors c'est vrai que Didier Lamkelzen était absent, ce qui a obligé Laszlo Bologna à revoir son dispositif. Il est repassé à un 4-5-1. Enzo, est-ce que ça t'a plu, toi, ce dispositif de Laszlo Bologna?
Ça m'a plu, oui, mais après, est-ce que Bologna avait d'autres choix que ce dispositif-là, avec les joueurs qu'il a à sa disposition? Je ne pense pas, surtout avec Lamkelzen qui était, je crois, déjà, qui a joué blessé contre Clermont déjà. Plus là aujourd'hui, hier. Oui, pour moi, après, on voit surtout l'apport que peut apporter Arthur Atta sur le front offensif. Mais après, qu'est-ce qu'il peut faire de plus, Laszlo Bologna? Je pense pas grand-chose.
Thomas, un mot, toi aussi, on t'a pas entendu sur la gestion du match par Laszlo Bologna. Sébastien et Enzo se sont exprimés. Quel est ton sentiment?
Bah, je pense qu'après, par rapport au système, c'est toujours un faux débat. C'est surtout quelle est la philosophie de jeu. Est-ce que les joueurs vont vraiment aller vers l'avant par rapport au discours qui est mis en place par le coach? Et là, Sébastien l'a bien soulevé. C'est vrai que depuis le début de saison, ce n'est pas des matchs exceptionnels qu'on voit du FC Metz. Arthur Atta et Enzo l'a dit également, c'est un plus dans cette équipe parce que c'est le seul qui peut poser le ballon et qui peut amener un peu de créativité, mais il est trop seul. Et quand on attend trop et qu'on met trop de choses sur les épaules de Georges Mikotadze, il peut pas sauver le FCMS à lui tout seul. Donc forcément ça devient compliqué. Quand on a des erreurs défensives, Erel et Kandé, c'est 30% et 20% de duels gagnés sur l'ensemble du match. Donc forcément, derrière, Reims en a profité et ça montre la frilosité et la fragilité de cette équipe. Donc ça va être compliqué et surtout le calendrier, on va en parler tout à l'heure, ça va être très très compliqué avec les équipes qui vont affronter le FCMS.
Allez, les résultats complets de cette 26e journée de Ligue 1. La victoire de Lyon du côté de Toulouse, 3-2. Strasbourg qui l'emporte à Nantes, 3-1. Même score pour Nice du côté de Lens. Brest et Lille se neutralisent un partout. Monaco, Lorient, 2-2. Victoire de Clermont face au Havre, 2-1. Rennes l'emporte contre Marseille, 2-0. Et le PSG cartonne du côté de Montpellier, 6-2. Le classement, le PSG donc en tête avec 12 points d'avance sur son dauphin Brest. Le FCMS reste 17e avec 2 points de retard sur le barragiste nantais. Alors messieurs, un petit débat forcément un petit peu provocateur, volontairement provocateur, hein, puisque Monaco, Brest, Lens, Lille, Rennes et le PSG, ces 6 équipes sont au programme des 8 dernières rencontres du FCMS. Selon vous, le FCMS a-t-il d'ores et déjà un pied en Ligue 2 ? Enzo ?
Oui. Oui, tout simplement. Bah, après, je pense qu'on peut que compter, je pense, sur... les potentiels faux pas des autres équipes, genre Nantes. Après, Nantes a changé son coach hier en rappelant Antoine Comboiré. Est-ce que ça va, eux, leur insuffler une nouvelle dynamique ? J'espère pas pour nous. Après, vu le calendrier que nous on va avoir avec Brest, Lens et même Paris et Strasbourg en avant et dernière journée, ça va être compliqué.
Thomas ?
Bah, ça va être compliqué dans le sens où, oui, par rapport à ce que le FCMS produit et les adversaires savent comment le club joue. Il n'y a pas énormément d'écart au classement. C'est peut-être la seule chance du FCMS actuellement parce que le rythme n'est pas très élevé. Mais Nantes a réagi avec le changement de coach. Strasbourg a pris des points et a gagné à Nantes, ce que je ne pensais pas qu'ils pourraient réussir à faire. Mais donc, ils ont un petit matelas maintenant. Donc ça va être compliqué et je pense que surtout les équipes, comme tu l'as dit Vianney, le calendrier il est infernal. Un pied oui, après il faudra voir sur, je sais qu'il y a Monaco, Brest,
Lens
ouais, il y a quasiment plus d'équipes directement sur... Wow.
Il restera Strasbourg et Le Havre.
Ouais donc ça fait trop peu directement pour se maintenir. Je pense qu'un pied oui, voire même un pied demi.
Ouais, Sébastien, tu es du même avis ?
Moi, je suis d'avis qu'il y a un pied depuis le mois d'août, depuis les choix réalisés, depuis la construction d'équipe, parce que pour moi, l'anomalie est ici. C'est ce mauvais constat, encore une fois, entre la Ligue 2 et la Ligue 1, et équilibrer un tout petit peu le rapport de force avec les adversaires en se renforçant. Or, on a plutôt perdu en qualité que se renforcer, puisque le mercato a été désastreux cet été. On a essayé de corriger un tout petit peu sur le front offensif avec le retour de Georges Mikotadze et puis l'arrivée de Lam Kelze, connu pour avoir fait un passage plus que qu'intéressant sous l'ère Antonetti. Donc voilà, mais il aurait fallu corriger des manques plus importants que ça encore, notamment au milieu de terrain. On sait que il n'y a pas besoin d'être Pep Guardiola pour savoir que la Ligue 1 se joue au milieu de terrain. Or, on a le milieu de terrain, je pense, pour le coup, sur les 18 équipes le plus faible de Ligue 1. Donc on est en grande difficulté. On a du mal à gérer les émotions, les temps forts, les équilibres d'équipe. Donc on n'arrive pas à produire suffisamment de choses et à être suffisamment, on va dire, pas lu par les adversaires pour pouvoir provoquer des surprises qui seraient importantes et qui seraient immenses, puisque au-delà du fait de jouer des ogres, comme tu l'as dit, 6 matchs sur 8, c'est surtout que tu joues ces ogres-là dans un moment de saison où ils ont tous quelque chose à jouer, parce que les 6 équipes que tu as nommées jusqu'à l'avant ou la dernière journée vont potentiellement jouer une place en Coupe d'Europe, donc ça va être très compliqué parce que forcément pour eux sur le classement c'est plutôt 3 points d'acquis contre le FCMS qui viendront chercher. Donc
il y aurait que le Paris Saint-Germain qui va jouer le FCMS lors de la dernière journée, qui ouais, devrait être champion.
Tu joues le dernier match d'Mbappé, il va vouloir en mettre 5 pour partir sur une bonne note, donc c'est pas une solution. C'était déjà dit ça l'année au Tonetti, souviens-toi, puisque Mbappé, on savait pas s'il resterait ou pas, finalement il a prolongé, on en avait pris 6 de mémoire,
5
ouais. Donc non, il faut pas compter sur un faux pas du PSG, mais même en claquette avec un Morito dans chaque main, ils sont un peu meilleurs que nous. Donc il faut pas compter là-dessus. L'idée, c'est que Reims, c'était un tournant pour pouvoir faire une troisième victoire en trois matchs. Pas oublier non plus, parce que moi, encore une fois, je veux pas être médisant. Hein. Je dis juste qu'on a battu Nantes qui est en mort cérébrale, qu'on a battu Clermont qui est quand même faible, et que c'est les seuls matchs de l'année à l'aller où on a réussi aussi à battre Clermont, à battre Nantes. Sinon, on a fait un exploit à Lens et point barre. Il se passe rien sur notre saison à part ces deux équipes-là. Sur le reste, on est quand même pas brillant, quoi. C'est encore une fois un constat. Moi, j'en veux pas aux joueurs parce que dans l'état d'esprit et dans l'énergie sont là. Dans l'état d'esprit, dans l'énergie sont là. Je pense la plupart du temps, même si ça manque un peu de course ces dernières semaines pour moi. Mais au-delà de ça, c'est plus à la construction d'équipe. Quand tu vas te battre, Nganou est pas boxeur. Il est monté sur le ring, il en a pris une à la deuxième, il est rentré chez lui. On boxe pas dans la même catégorie. Les adversaires sont mieux construits que nous, mieux équilibrés, avec des idées. Donc c'est compliqué pour les joueurs de se défendre là-dedans. Donc la Ligue 2. Évidemment, mais la Ligue 2, évidemment, depuis le début de l'année, parce que quand tu fais des choix qui ne sont pas sportifs, qui sont que pécuniers et financiers, faut pas t'attendre sportivement à concurrencer des équipes qui sont dans un autre état d'esprit. Donc c'est logique, on paye ce qu'on crée et la dynamique du club depuis des années maintenant.
Merci beaucoup, messieurs, pour ce petit débat. On en arrive à vos top et flop. On va commencer avec toi, Thomas, et direction l'Allemagne pour ton coup de cœur.
Je voulais mettre en avant le FC Saarbrücken qui s'est qualifié pour la demi-finale de la Coupe d'Allemagne après avoir battu Borussia Mönchengladbach. Ils ont éliminé également le Bayern Munich et l'Eintracht Francfort. Donc c'est assez incroyable leur parcours. En demi-finale, ils vont jouer sur la pelouse de Kaiserslautern qui est pas loin. Ça va être un derby, ça va être assez intéressant. Pourquoi pas une finale face à, on ne sait jamais, l'ogre Leverkusen. Ça pourrait être intéressant.
Ouais, et on rappelle que Saarbrück évolue en troisième division allemande. Pour ton flop, direction la Turquie maintenant.
Oui, c'est des images qu'on n'aime pas voir avec des affrontements qu'il y a eu entre Trabzonspor et Fenerbahçe à la fin du match. Fenerbahçe avait gagné, je crois, 3-2 sur la pelouse de Trabzonspor. Il y a des supporters, des hooligans plutôt, qui sont entrés sur la pelouse et qui ont affronté tout simplement des joueurs. C'est des images qu'on n'aime pas voir. Et surtout, ce n'est pas la première fois cette saison que ça se passe en Turquie. Donc ça montre aussi que le football évolue dans le mauvais sens en ce moment. Et ce n'est pas très très joyeux pour les amateurs de football que l'on est.
Alors Enzo, on va commencer avec toi, avec ton flop. C'est le FC Nantes, ça doit être l'équipe la plus souvent citée dans les flops cette saison.
Ouais, mais je ne voudrais même pas citer l'équipe en général du FC Nantes, c'est plus les dirigeants du FC Nantes qui ont encore sorti un nouveau entraîneur de leur chapeau avec Antoine Comboiré, enfin le retour d'Antoine Comboiré. Je ne sais pas comment ils géraient ce club. Je pensais que Metz était un des clubs les plus mal gérés, je trouve, de la Ligue 1, mais je pense que Nantes les surpassait de loin. Troisième coach de la saison. Bon, après avoir viré Aris Touy, Gourvenec et maintenant faire revenir de nouveau Comboiré, je ne sais pas quel est l'objectif des dirigeants nantais.
Merci beaucoup. Et on va parler d'un club français également pour ton top.
Ouais, c'est un peu plus joyeux, c'est le PSG. Pour moi, c'est Enrique. Je trouve qu'il a vraiment une bonne emprise sur son équipe. Non, je trouve que la victoire en Espagne à la Real Sociedad a fait beaucoup de bien à ce club et à ce groupe. Et je trouve que, je pense, vu leur tirage qu'ils ont eu là en Ligue des Champions, je pense qu'ils peuvent au moins aller jusqu'en demi-finale. Je trouve que Barcelone est un bon tirage. Ils ont pu taper le Real ou le City. Mais je trouve que là, c'est un bon tirage. Je pense qu'ils peuvent faire un bon parcours.
Merci beaucoup, Enzo. Sébastien, avec toi, on y parlait du Paris Saint-Germain. Toi, c'est son entraîneur du PSG qui t'intéresse pour ton top.
Oui, tout à fait. J'en ai déjà parlé un petit peu plus tôt dans la saison avec toi, avec vous, avec Thomas, qui était aussi présent, évidemment. Donc, je pense que Luis Enrique est pile ce qu'il faut sur le moyen terme au PSG. C'est-à-dire que ce qu'il est en train de réaliser, c'est la première fois qu'on a au PSG un entraîneur qui a plus d'ego que les joueurs. Et qui, et pourtant il y en a dans ce club-là, beaucoup, oui. Et qui ne s'assoit pas dessus. On peut aussi fustiger ça, mais il n'a pas de scrupule à mettre un Mbappé sur le banc. On voit les polémiques que ça crée, on voit que tout le monde est choqué sauf lui, puisque ça offusque tout le monde, sûrement même. Et alors le joueur a l'air d'avoir une relation avec lui aussi qui est intéressante malgré tout. Il a réussi à mettre en place un turnover qui est obligatoire pour pouvoir aller vraiment très très loin dans une compétition comme la Ligue des Champions, qui n'était pas mise par les autres entraîneurs, puisqu'on arrivait de temps en temps avec des fragilités sur tel ou tel joueur, ou dans les matchs cruciaux avec des joueurs très très importants du groupe absents pour blessure, pour tel ou tel type de problématique, ce qui n'est pas le cas avec Luis Enrique, parce que il tourne vraiment beaucoup, il n'hésite pas non plus à faire jouer des jeunes du centre de formation du PSG. Quand on voit la qualité de l'effectif, on peut quand même se demander comment il arrive à réaliser ça, à sortir de trois pépites aussi. On voit Mayulu par exemple hier, qui a joué une vingtaine de minutes contre Montpellier, qui a 17 ans. Donc ça me plaît en fait cette philosophie de dire j'ai une idée. Quand je parle d'idée, de philosophie de jeu, lui c'est clair, c'est affirmé. Après, on aime ou on n'aime pas, ça c'est un autre débat, mais par contre je pense que pour ce club là c'est exactement ce qu'il fallait, parce que si jamais il n'arrive pas à le réaliser cette année, même s'il a finalement les armes pour pouvoir le réaliser, je pense que dans les 2-3 années à venir, en corrigeant le tir, en complétant son effectif de la façon qu'il voudra, en ayant exactement le groupe qu'il veut, il arrivera peut-être à l'objectif du PSG, ce qui n'aurait jamais été le cas sans un entraîneur de cette envergure là, type Luis Enrique, type Guardiola, qui encore une fois ont une immense ego et une philosophie pour lequel ils se renieront jamais. Donc quitte à se faire virer, ils resteront dans ce qu'ils pensent et dans ce qu'ils veulent. Donc moi je trouve ça admirable, parce que c'est pas simple de réaliser ça au PSG. Donc en gros c'est quelqu'un qui en a dans le froc, et j'aime bien les entraîneurs qui
Merci Seb. Un flop surprise.
Ouais, un flop surprise. Je vais dire Marseille, puisque tu m'as déboulonné mon flop avec Laszlo Bologna. Donc je vais dire Marseille, parce que tu parles d'un flop sur la semaine, après un énorme rebond à la sortie de Jean-Luc Gasset. De temps en temps, c'est ce qu'on voit dans les changements d'entraîneur, où il y a une vraie dynamique qui se crée derrière, parce qu'on adhère au discours du coach, parce qu'on est exactement dans ce qu'il fallait réaliser. On l'a vu avec Pierre Sage déjà, et lui, il a réussi à pérenniser, à faire ça sur la durée dans la saison. Le problème de Marseille, bon, ils sont quand même passés à la fleur d'une remontada qui était quand même aussi catastrophique, jeudi, hein, parce que ça s'est quand même pas joué à grand chose. Et puis là, la défaite à Rennes, pour le coup, c'était un match charnière pour eux, pour vraiment récupérer un bon wagon pour aller titiller les places de Ligue des Champions. Et ils ont loupé le coche contre un concurrent direct qui, pour moi, est une équipe qui travaille très très bien depuis des années, qui est Rennes, et qui est une équipe que j'adore regarder jouer ces derniers temps, parce que qui prône le jeu, qui joue, qui a pas peur, qui a aussi une philosophie pour le coup. Donc voilà, je voulais parler un tout petit peu de Marseille, pas suite au rebond. Encore une fois, j'aurais parlé de Laszlo Bologna, mais t'as pas voulu, parce que bon, moi la gestion... Ouais,
t'as pu en parler de Laszlo Bologna juste avant, mon cher Sébastien. Eh ben tu reviendras, on en reparlera encore une prochaine fois. Allez, en bref, quelques résultats avec en D2 féminine, hein, le FC Metz qui a battu Nantes qui aurait pu prendre la place de leader ce week-end, mais voilà, Metz s'est imposé 2-1. Les Messines remontent à la 10e place, 10e sur 12. En National 3, Thionville fait match nul du côté de Nancy, 1-1. Le FC Metz s'incline à Thaon, 2-1. Au classement, Thionville reste bien sûr largement en tête. Le FC Metz est 9e. On va se pencher sur la 27e journée de Ligue 1, messieurs. Ça sera dans une dizaine de jours, on l'a dit, avec cette équipe de Monaco qui est surprenante quand même, hein, ces dernières semaines, capable de faire nul contre le PSG, de s'imposer à Lens, à Nice, et dans le même temps de se faire éliminer par Rouen en coupe, de perdre à la maison face à Toulouse, ou de concéder le match nul contre Lorient hier après-midi. C'est vrai qu'elle est surprenante, Sébastien, cette équipe.
Très surprenante, ouais. Illisible aussi. On a beaucoup de qualités, encore une fois, individuelles. Je pense que cette équipe-là a de nombreux bons joueurs. Après, pour le coup, il y aura une opportunité dans les 6 équipes qui sont vraiment à jouer dans le haut du tableau pour le FCMS jusqu'à la fin de la saison. Je pense que c'est celle qui est le plus abordable, parce que justement, très très surprenante. Elle est capable de nous en coller 5 si jamais c'est un jour qui va, mais elle est capable aussi de perdre et de se mettre en difficulté. Je me souviens, à l'aller, on leur avait posé quelques problèmes avec cette ouverture du score magnifique là, de Lamine Camara.
Bon. Ouais, du milieu de terrain.
Mais encore une fois, c'est ce que sera capable de proposer le FCMS. C'est surtout ça qui m'intéresse. Et depuis 13 matchs, c'est quand même dans la proposition assez maigre pour pouvoir bousculer une équipe comme Monaco qui a des ambitions.
Ouais, 25 points pris en 13 déplacements cette saison, Enzo. Seul le PSG a fait mieux. Monaco s'est voyagé. Hein.
Ce que j'allais dire, ouais, Monaco, c'est une équipe qui s'est vraiment bien voyagée. À domicile, ils ont toujours eu un peu plus de mal ces dernières saisons, mais à l'extérieur, on a bien vu les deux matchs à Lens en Coupe de France et en championnat. Ils ont vraiment été excellents. Je pense pas qu'à Metz, ils vont changer leur philosophie de jouer à l'extérieur. Franchement, je vois pas un exploit de Metz sur ce match.
Thomas, le coup est jouable pour le FC Metz sur ce match ?
Peut-être la seule chose, c'est que ça sera au sortir d'une trêve internationale, donc à voir quel est l'état physique des joueurs. Mais sinon, Monaco, à l'extérieur, et comme tu l'as dit, et par rapport aux statistiques, c'est une équipe qui tourne bien. Elle devrait être largement, à mon avis, par rapport à l'effectif qu'ils ont, à la deuxième place du championnat, ce qui est une anomalie parce qu'en plus ils n'ont pas de Coupe d'Europe cette année, donc ils doivent prendre des points. Je pense que le FC Metz aura beaucoup de mal face à cette équipe qui a une armada offensive. Individuellement, ça va être très très compliqué. Et bon, il y aura le stade qui sera plein, puisqu'il y a déjà une des annonces qui ont été faites par rapport à ça. Donc voilà, Monaco à domicile, ils n'ont pas ce soutien et on en rigole, mais ça joue également sur le fait d'être moins bon à domicile. À l'extérieur, c'est tout autre, donc ça va être très très compliqué.
Bon, Metz a du soutien et ils ne sont pas forcément flamboyants à domicile. Allez, c'est l'heure de vos pronos, messieurs. On commence par toi, Enzo.
Je dirais 3-0 pour Monaco.
Thomas.
1-2.
Sébastien.
3-0 pour Monaco, il m'a tué. C'est encore pire que moi. Non, le pronostic. On va pronostiquer. Allez, 1-3.
1-3, merci beaucoup, messieurs. C'est l'heure du petit quiz, c'est la fin de l'émission. J'espère que vous avez bien suivi l'actu foot du week-end. Comme d'habitude, une seule réponse. Et un point par bonne réponse. Allez, attention, c'est le premier qui répond, qui marque le point. En Première Ligue, pourquoi 5 matchs de championnat ont été reportés ce week-end ?
Il y avait la Cup.
Il y avait les quarts de finale de la Cup.
FA Cup, s'il te plaît.
Oui,
Alors là,
merci pour la précision, ça.
Non, mais bon, si c'est approximatif, ça, c'est rigolo.
Après, tu triches avec le téléphone, en plus.
Non, même pas. Tu vois, je suis en train de faire deux choses en même temps.
Allez, premier point pour Thomas. En Allemagne, combien de points de retard contre le Bayern sur Leverkusen ?
7.
Non, plus le droit de répondre. 10, le point pour Enzo. 10 points de retard maintenant pour le Bayern Munich. En Espagne, le Barça s'est imposé 3-0 face à l'Atlético. Mais comment s'appelle le stade de l'Atlético ?
Wanderrama Stadium ?
Non.
Wanda Metropolitano.
Exactement, le deuxième point pour Enzo. 2-1 pour Enzo. Sébastien, c'est quand tu veux.
Non, je joue plus, moi. On peut dire n'importe quoi et ça donne les bonnes réponses.
Attention, ça peut être rapide, là. En Ligue 2, quelle place occupe l'Est Saint-Etienne désormais ?
Deuxième. Trois.
Troisième, le point pour Sébastien. Ouais, bien joué.
Oh, la Ligue 2, je la connais par cœur. Je suis le FC Metz.
Allez, en Italie, quel ancien joueur du FC Metz s'est incliné 3-1 avec son club face au Milan AC ?
C'est toujours des questions, toi.
Braun ?
Non, c'est plus le droit de répondre. Ce n'est pas Braun. Non,
Palomino ?
Palomino, plus le droit de répondre.
Ouais,
bah. Allez, Seb, ça vaut 2 points, c'est la question de la victoire.
Non, Seb, attends, je cherche l'équipe contre qui ils ont joué, je me souviens déjà.
Ils n'ont pas joué Bergame ?
Ils ont joué le Hellas Vérone.
Hellas Vérone, mais oui. Mais
ah ouais. Et ben, l'ancien joueur du FC Metz qui joue au Hellas Vérone, c'était Fabien Santonze. Voilà, ah oui, il était titulaire dans cette rencontre. Désolé, mon cher Sébastien. Bon, Sébastien, avant de se quitter, un petit coucou à Marshall Immobilier.
Ouais, coucou. Coucou ou pas, d'ailleurs. Si tu veux faire de la pub pour nous, il n'y a pas de souci. Écoute, c'est gentil. Ouais, tout va bien. En tout cas, tu travailles bien. Toi, j'étais en retard au rendez-vous. On n'arrête pas. Ça marche bien. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à venir nous chercher.
Merci beaucoup. Enzo, on peut dire un petit mot sur Let's Go Metz également ?
Ouais, toujours, un petit actu du sport messin, que ce soit tous les sports, soit rugby, volley, avec le TFOC, ou bien sûr le foot, et maintenant avec Thionville, tous les articles sont à suivre sur letsgomets.com.
Merci beaucoup Enzo, merci mon cher Thomas, et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve donc non pas la semaine prochaine, mais dans 15 jours, pour débriefer la réception de Monaco. Merci à tous, ciao ciao.
Merci, ciao. Salut.
Confidence Sportive, agence de communication, marketing spécialisée dans le sport, et Citron Productions, votre prestataire audiovisuel, vous ont présenté Rendez-vous Grenat.